et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut Lauriane!
Salut Darina!
Comment tu vas?
Eh bien écoute, ça va très bien!
Trop cool! Est-ce que tu es déjà en vacances?
Presque! La semaine prochaine, ça arrive à
l'heure. Bon, allez, vivement! En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation!
Eh bien écoute, merci à toi de m'avoir invitée. De mon côté, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi et puis de pouvoir parler de mon métier et de Mimosa.
Exactement. Du coup, effectivement, toi, tu es account manager depuis plus d'un an chez Mimosa. C'est le leader européen du financement participatif sur les thématiques agricoles et alimentaires. Et pour la petite dédicace, c'est Charlotte de MangoPay qui nous a mis en relation. Donc, merci encore à toi, Charlotte. Et de mon côté, je suis ravie parce que je voulais vraiment donner la parole à une plateforme de crowdfunding. Et le but ici, c'est aussi de montrer que le métier d'account manager existe dans toutes les branches de la fintech, même si on ne pense pas spontanément au crowdfunding. Avant de commencer, Lauriane, peux-tu me dire quel est ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Sans hésiter, je dirais une pizza napolitaine. Grand classique. Si elle peut être mangée à Naples, c'est mieux. Mais n'importe où, ça passe bien.
Il n'y a pas de lieu ni de moment idéal pour manger une bonne pizza.
C'est ça, exactement.
Top. Eh bien, écoute, à présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
Eh bien, comme tu l'as dit, donc je m'appelle Lauriane, j'ai 26 ans. Je suis chez Mimosa depuis quasiment 2 ans. À la base, moi, je suis issue d'un parcours école de communication, donc que j'ai fait à Paris. Depuis longtemps, de mon côté, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé par pas mal bosser et puis faire des stages, notamment en start-up, dans des milieux, des univers assez différents. Et puis avec le temps, mes centres d'intérêt se sont affinés et se sont plutôt orientés sur la food tech. Donc, directement en sortie d'école, j'ai voulu me mettre un petit peu sur ces domaines-là.
Oui, parce que j'ai vu que tu avais créé une société aussi, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. C'est tout à fait ça. En sortie d'école, j'avais très envie de me lancer et de travailler sur un projet perso. Donc, j'ai commencé à travailler sur un projet de création d'entreprise dans l'économie circulaire. Donc, en fait, l'idée, c'était de travailler avec des brasseurs, donc des brasseurs plutôt en milieu urbain, et puis de récupérer les céréales qu'eux utilisent pour fabriquer la bière. Donc, c'est un coproduit, ça s'appelle des drèches. Donc, c'est des céréales qui sont parfaitement propres à la consommation, mais qu'eux ne peuvent pas conserver. Et donc, mon objectif à moi, c'était de transformer ces céréales en produits de grande conso, donc des muesli, des granolas, etc. Et d'être un peu dans une démarche anti-gaspi. Donc, c'était une super expérience, hyper formatrice. J'ai appris plein de choses, ça a duré un petit peu plus d'un an. Et puis, au bout de ces un an et quelques, j'ai commencé à rencontrer quelques difficultés pour continuer le projet à titre perso. Et puis, à côté de ça, en fait, je suivais les actualités de Mimosa, déjà, car un des brasseurs avec lesquels je travaillais à l'époque avait fait une collecte de crowdfunding sur Mimosa. Donc, je suis tombée sur l'offre de mon poste actuel. J'ai eu un vrai coup de cœur, à la fois pour la boîte et aussi pour l'émission. Donc, j'avais le sentiment qu'il fallait vraiment que je fonce, que je postule et puis que je mette mon projet entre parenthèses pour ce moment-là, pour rejoindre Mimosa. Donc, me voilà.
Bon, trop cool. Ça tombait bien, en tout cas. Je pense que c'est un signe aussi que tu vois l'offre à ce moment-là.
C'est clair.
Je pense que rien n'est fait par hasard. Oui, c'est clair. Et alors aujourd'hui, du coup, est-ce que le fait d'avoir une appétence pour la partie food tech et également pour tout ce qui touche à l'agriculture est un atout, toi, dans ton poste actuel d'account manager? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus au niveau conviction que tu portes autour du développement durable et de l'impact que ça va générer au sein de ton quotidien?
Ouais, complètement. Déjà, je pense que mon attrait pour l'entrepreneuriat au global est un vrai plus, puisque en fait, tous mes échanges, tous mes, entre guillemets, clients chez Mimosa, on les appelle plutôt porteurs de projets, mais tous mes porteurs de projets ont un lien avec l'entrepreneuriat. Du coup, c'est des échanges qui sont facilités parce que, quelque part, je comprends un petit peu leurs problématiques, je sais quelque part de quoi ils parlent. Donc ça, c'est sûr. Et après, étant donné que Mimosa est une plateforme spécialisée, donc comme tu l'as dit, sur l'agriculture et sur l'alimentation, je pense que c'est vraiment une boîte de passionnés. Et tu vois, on a tous à cœur de soutenir l'agriculture et l'alimentation, d'être vraiment sur ces deux thématiques. Et c'est quelque chose qui nous regroupe tous. Donc Mimosa a une culture d'entreprise assez forte. Et on le ressent, tu vois, notamment dans les candidatures qu'on reçoit. On retrouve beaucoup de passionnés de restauration, beaucoup de fils ou de petits-fils d'agriculteurs, ou tout simplement des personnes qui ont aussi envie de s'engager et puis de donner du sens à leur vie pro. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est important, surtout sur mon poste où je suis en relation quasi constante avec nos porteurs de projets. D'avoir envie de les soutenir, de comprendre un petit peu leur sujet, leur thématique, c'est, je pense, vraiment essentiel.
Oui, c'est ça, parce que mine de rien, avant d'entrer sur une relation commerciale, tu vas essayer de les connaître au niveau personnel et pourquoi est-ce qu'ils ont créé aussi ce projet. Et puis j'imagine que tu vas aussi leur parler un petit peu de toi, ton expérience, et puis vous allez vite trouver des points communs. J'imagine que ça doit aussi avoir un impact fort en termes de confiance. Que les porteurs de projets ont avec Mimosa et avec toi.
Ouais, c'est sûr. Et puis, je pense que ça donne aussi l'impression aux porteurs de projets qu'ils ont aussi le bon interlocuteur et qu'ils ont vraiment une personne apte à comprendre un peu leur sujet et puis à les aider du coup dans la mise en place des collectes. Et tu vois, j'ai même déjà accompagné des porteurs de projets qui avaient des projets très similaires à celui que j'avais voulu monter. Et du coup, pour le coup, c'était super de pouvoir échanger un petit peu sur leurs produits, sur leur manière de fonctionner à eux, puisque finalement, on avait travaillé vraiment sur les mêmes choses.
Je reviens un peu sur ce que tu disais concernant la culture d'entreprise et comme quoi tous les collaborateurs portent finalement en eux les valeurs de Mimosa. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur plus précisément la structure du service business, un peu peut-être les parcours des uns et des autres, et surtout quels sont les différents rôles au sein du service business et comment est-ce que tu vas interagir avec chacun d'eux?
Ouais, complètement. Peut-être que je peux en profiter pour te faire un petit tour d'horizon sur Mimosa, pour que tu aies un peu tous les éléments en tête. On a été créé il y a 5 ans par Florian Breton. Donc Florian Breton, tu vois, à la base, c'est un petit-fils de viticulteur. Donc, dès le départ, il y avait déjà, il baignait dans ces thématiques et il a créé Mimosa pour répondre à deux problématiques. La première, c'était quand tu travailles dans le milieu agricole, financer tes projets, financer tes besoins, souvent, c'est pas simple. L'accès à des banques, des prêts bancaires, c'est pas toujours optimal. Donc, il manquait quelque chose, il manquait une solution facile d'accès. Le deuxième point, c'était il y a une espèce de cassure entre le milieu agricole et les citoyens, qui est due, je pense, à beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, d'éléments que les gens n'ont pas forcément, et du coup, ça donne accès à beaucoup d'incompréhension. Donc, le but de Mimosa, initialement, c'était aussi d'être un outil pour remettre du lien entre le grand public et les milieux agricoles. Donc dans tout ça, nous, on propose deux solutions de financement. La première, c'est le don avec contrepartie. Par exemple, toi, Darina, tu donnes 50 euros un maraîcher dans ta région. En échange, ce maraîcher, il va t'offrir 2 paniers de légumes et il va t'inviter à une visite de son exploitation. Et puis la deuxième solution qu'on propose, c'est du prêt participatif. Donc là, au lieu de laisser dormir ton épargne, tu vas décider de prêter 1 000 euros à un viticulteur qui a besoin de financement pour passer son domaine en bio. Donc toi, tu seras remboursé au fil des ans selon les taux d'intérêt qui avaient été définis. Et puis quelque part, ça te permet de financer une économie en laquelle toi, tu crois et de financer aussi des projets sur des thématiques que toi, tu as envie de porter, que toi, tu as envie de soutenir. Donc pour faire le lien avec ce que tu me demandais sur le service business de Mimosa, il est divisé en 2 grandes parties. D'un côté, on a une équipe sales qui est aussi divisée en deux avec de la prospection directe. Les membres de l'équipe vont directement voir des porteurs de projets pour leur proposer notre solution et voir en quoi on peut leur être utile. Et la deuxième partie de l'équipe est sur de la prospection indirecte. Donc là, c'est plutôt via des réseaux de partenaires. Donc ces partenaires, ça peut être des incubateurs, des chambres d'agriculture. En fait, ça peut être tout type de prescripteurs en lien avec nos thématiques. Sur ces équipes, on a des gens au niveau local, donc sur des régions fortes en France, comme l'Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, ou la région Sud, avec quelqu'un qui est sur Aix-en-Provence. Et puis, on a donc l'équipe en Belgique. Ces deux équipes-là, à Paris et puis en territoire à l'international, leur mission, c'est vraiment de prospecter et de préqualifier des projets en don et aussi, surtout, en prêt participatif. La deuxième équipe business, c'est l'équipe dont moi, je fais partie. Donc, c'est vraiment l'équipe dédiée aux dons avec contrepartie. Et cette équipe, elle est composée donc d'une responsable de pôle. On est 3 account managers et on se fait régulièrement accompagner. On travaille avec des stagiaires qui complètent notre équipe. Notre équipe, elle est assez centrale chez Mimosa, puisque on est un petit peu l'équipe en première ligne. On est celle qui est vraiment le plus en contact avec nos clients, avec nos porteurs de projets. Donc, on est en relation très proche aussi avec toutes les autres équipes, que ce soit sur des sujets de partenariat, de communication. C'est vraiment des contacts assez proches et très réguliers.
Ok, ouais, très clair. Toi, tu vas être vraiment la voix des porteurs de projets en interne, si je comprends bien.
Ouais, c'est ça.
Je veux bien que tu me parles maintenant de ton poste à proprement parler chez Mimosa. Est-ce que tu peux nous décrire tes missions et également nous renseigner sur les KPI sur lesquels tu vas être objectivé?
Alors le poste d'AM chez Mimosa, je pense qu'il est particulièrement complet parce que en fait, il regroupe vraiment différentes phases et pas uniquement de la gestion de compte et de la gestion de mon portefeuille. Mon rôle, il est situé aussi bien sur de la prospection que sur de la transformation. Ça va aussi sur de la négociation. Le point final et le point principal, la partie accompagnement slash gestion. Je préfère parler plus de conseils et d'accompagnement. Je pense que dans, je sais pas ce que toi, quel regard tu en as, mais je pense que dans beaucoup d'entreprises, ces rôles sont plutôt segmentés. Et c'est vrai que dans mon équipe, on fait un petit peu tout ça.
Ah oui, c'est vrai que c'est pas commun que je rencontre des account managers qui font de la prospection.
Ouais, c'est clair. Et puis ça nourrit aussi mon poste, ça diversifie mes missions, et puis ça en fait vraiment quelque chose de super complet. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore. Parce que du coup, c'est vrai que très concrètement, mes missions, elles sont assez variées, puisque ça va de trouver des nouveaux porteurs de projets accompagnés. C'est aussi quand on a des projets entrants, des porteurs de projets qui viennent vers nous, c'est pouvoir les convaincre que l'outil crowdfunding est adapté à eux et que Mimosa est la meilleure plateforme pour leur projet, puisqu'on a quand même pas mal de concurrents sur ce secteur du crowdfunding. Et puis après, sinon, comme je te disais, c'est vraiment de l'accompagnement une fois que les porteurs de projets ont choisi de se lancer. Donc là, c'est vraiment plutôt un rôle de conseil, on va dire à la fois stratégique et aussi conseil de communication, puisque c'est se demander combien les porteurs de projets peuvent espérer collecter, comment ils vont présenter leur projet, comment ils vont communiquer autour de leur collecte. Donc c'est plein de grandes problématiques comme ça. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'être là pour eux, de leur donner un petit peu notre expérience, de leur donner les retours que j'ai eus par rapport aux différents projets que j'ai accompagnés, et faire en sorte que tout ça se passe au mieux pour eux. Donc c'est vraiment des échanges assez réguliers et une relation assez personnalisée, puisque un porteur de projet qui arrive chez Mimosa, si c'est moi qui l'accompagne, il aura un seul interlocuteur, ce sera moi. Donc dans tout ça, moi je suis objectivée sur plusieurs KPI. Le premier, c'est le nombre de collectes que je publie et que j'accompagne. Je suis aussi objectivée sur le taux de succès de ces collectes et sur le chiffre d'affaires qui va être apporté par ces collectes, puisque Mimosa donc se rémunère en prenant des frais de service sur le montant qui va être collecté par la personne.
Du coup, toi, tu vas avoir intérêt à trouver le maximum de porteurs de projets, faire en sorte de les accompagner aussi dans leur communication afin qu'ils atteignent le financement souhaité, voire au-delà. Et comme ça, toi, au niveau de Mimosa, tu vas avoir des frais de service qui rentrent dans ton variable.
Exactement. C'est relié, associé aussi bien le côté quantitatif que le côté qualitatif, clairement.
Et alors moi j'ai une question là-dedans. Est-ce que tu vas t'impliquer personnellement en plus que professionnellement s'il y a des projets qui te plaisent particulièrement? Est-ce que tu vas les relayer auprès de tes proches? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que
Ouais.
ça va aller au-delà de l'aspect juste avoir mon variable, mais vraiment une conviction profonde pour un sujet?
Ouais, c'est clair. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc exactement comme tu le dis, soit parce que je vais accompagner un projet qui correspond à mes valeurs et au projet que j'ai envie de soutenir. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais eu une collecte pour une épicerie vrac pas très loin de chez moi, à Paris. Donc tu vois, je l'ai relayé à tous mes potes qui habitent dans le coin en leur proposant de soutenir le projet pour participer à l'ouverture. Donc ça peut être ça, ça peut être des projets qui se créent sur des territoires que j'ai à cœur. Par exemple, ma famille est corse, donc quand j'ai des projets en Corse, ça m'arrive de temps en temps de participer parce que ça me fait toujours plaisir. Et puis parfois, c'est des porteurs de projets avec lesquels je m'entends super bien, avec qui on noue une relation vraiment sympa. Et du coup, je peux avoir aussi envie de les soutenir, en partageant leur projet ou même en participant moi-même, quoi.
Et alors, vu que toi, tu fais de la prospection, je voulais savoir un peu comment est-ce que tu découpes ton emploi du temps. Et aussi, vu qu'un crowdfunding, c'est un peu en one shot, comment est-ce que toi, tu vas assurer le suivi du partenariat sur le long terme?
Tout à fait. Alors, pour répondre à ta première question, ce qui me prend le plus de temps et ce qui va être la partie quand même la plus importante de mon métier, c'est quand même plus la partie accompagnement et transformation des projets entrants. La partie prospection, tu vois, je dirais que c'est un sixième de mon temps de travail, quoi. Donc c'est vraiment en plus, c'est pour diversifier aussi un petit peu mon portefeuille. Et par exemple, moi, du coup, je suis super intéressée par les projets de les lancements de marques de food. Tu vois, de petits projets de snacking, un peu comme moi je faisais. Et du coup, quand j'ai du temps, on va dire libre, je regarde un petit peu ce qui se fait, je contacte des gens pour leur parler de Mimosa. Donc, ça reste une mission plutôt secondaire par rapport à ma mission principale d'accompagnement. Je me rappelle plus de ta deuxième question, du coup.
C'était sur le fait qu'un crowdfunding, ce soit en one shot.
Ouais, exactement. En fait, ça s'exprime vraiment par, en gros, mon portefeuille se renouvelle souvent et j'ai régulièrement des sorties. Donc, les personnes, notre relation, elle se termine et puis ils sortent de mon portefeuille. Mais c'est vrai que c'est du one shot et au-delà de c'est du one shot, c'est aussi plutôt sur du court terme. puisque les collectes, c'est relativement court. Tu vois, c'est tout le temps sur un mois et demi. Donc, au bout de ce mois et demi de collecte, ma relation de clientèle s'arrête avec la personne. Donc, en fait, ça se traduit surtout par un renouvellement assez régulier de mon portefeuille de porteur de projet.
Ouais, là, je comprends mieux pourquoi aussi, toi, en tant qu'account manager, tu fais de la prospection. Parce que mine de rien, voilà, la lifetime value, entre guillemets, de tes clients, si on doit utiliser des termes purement business, elle est assez réduite. Du
Tout à
coup,
fait.
il va falloir que tu joues sur le volume, quoi.
Exactement, ouais. Et d'où aussi l'importance de ce dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, de la prospection via des prescripteurs, via ces partenaires qui nous entourent et qui nous recommandent aussi aux porteurs de projets.
Et du coup, comment est-ce que tu trouves ces porteurs de projets? J'imagine que tu as parlé de la veille tout à l'heure. Est-ce que tu vas participer à des forums, des salons pour évangéliser un petit peu ces entrepreneurs?
Complètement, complètement. Alors effectivement, il y a pas mal de veille qui se fait très bien en ligne, notamment sur les réseaux sociaux où on trouve plein de jolis projets, plein de belles entreprises qui se créent. Mais sinon, c'est vrai que la présence en événementiel, elle est assez importante. Et puis c'est cool aussi de nouer un contact en physique direct. Donc c'est vrai qu'on essaye d'être présent sur des événements. Tu vois, bah bien sûr, je pense notamment au Salon de l'agriculture. On est présent tous les ans, mais ça peut aussi être des plus petits salons, plutôt orientés food. Par exemple, en septembre, je sais que je vais aller au Salon du Vrac, qui a lieu à Paris, où il va y avoir des porteurs de projets, donc des créateurs d'épiceries, mais aussi des créateurs de marques de fournisseurs pour les épiceries vrac. Et donc là, ça va être l'occasion de discuter avec ces porteurs de projets, de leur parler un petit peu des collectes que j'ai déjà accompagnées, et puis de leur expliquer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter et puis quels avantages ils auront à passer par Mimosa.
Je reviens un peu sur la gestion de ton portefeuille client. Combien de porteurs de projets tu vas accompagner à la fois? Enfin, quand je dis à la fois, je ne sais même pas, parce que tu as dit qu'une collecte, ça durerait entre un mois et un mois et demi.
Ouais.
Du coup, tu vas être sur combien de projets en même temps? Et quel temps aussi ça te laisse pour aller les voir en physique et faire tout ce dont tu parlais? Parce que mine de rien, j'imagine que c'est assez court. Donc, le temps de nouer une relation, mettre en place leur profil sur le site de Mimosa, faire toute la com et ensuite faire peut-être un peu de feedback, lui donner des datas, plus prospecter à côté. Enfin, voilà, quel est ton rythme et est-ce que tu vas forcément les voir en physique ou est-ce que ça peut passer par d'autres moyens de communication? Voilà, comment est-ce que tu t'organises?
Alors, dans mon portefeuille, c'est vrai que c'est pas simple de réussir à définir combien j'ai de personnes. Pour te donner un petit peu des ordres de grandeur, en gros, chaque mois, mon équipe, on lance une centaine de collectes. Donc, ça signifie aussi que chaque mois, on a une centaine de collectes qui sont en cours, assez logiquement. À titre perso, depuis mon arrivée, donc on va dire en quasi 2 ans, j'ai lancé à peu près 400 collectes. Donc j'ai accompagné 400 personnes ou entreprises à lancer leur financement participatif. Sur ces 400, je sais qu'il y en a environ 75-80% qui ont été financés avec succès. Et tous les mois, ça signifie que je lance entre 15 et 30 collectes. Donc j'ai, on va dire, 15 ou 30 contacts qui sont transformés. À côté de ça, bien sûr, il y a des contacts qui ne sont pas transformés ou en tout cas pas tout de suite. Donc je pense que mois par mois, j'ai à peu près une soixantaine de porteurs de projets que je suis régulièrement dans mon portefeuille jusqu'au lancement de leur collecte. Et puis après, de toute manière, une fois que leur collecte est lancée, je les accompagne aussi. Donc mon accompagnement, il est vraiment en deux phases. J'accompagne les gens jusqu'à ce que leur collecte soit lancée. Et une fois qu'elle est lancée, je suis toujours là pour faire du suivi, pour vérifier que tout se passe bien. Donc je gère à la fois mes contacts en cours de collecte Et à côté de ça, mes contacts qui sont sur le point ou pas loin de lancer leur projet.
Et qu'est-ce qui se passe pour les 20-25% de collectes qui ne connaissent pas le succès escompté?
Alors, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple dans le sens où forcément ça génère pour les porteurs de projets toujours un petit peu de déception, toujours un petit peu de frustration. Après, en fait, il peut y avoir plein de critères qui font que ta collecte ne réussit pas. Ça peut être une question de moment, ça peut être une question de on a visé trop haut, on a voulu trop récolter. Il y a vraiment plein de critères. Donc, ce n'est pas parce qu'une collecte de financement participatif échoue que ça remet en question le projet, que ça remet en question le bien fondé de l'entreprise. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire passer à mes porteurs de projet. C'est une opération de com qui n'a pas été 100% réussie. Mais à côté de ça, c'est quand même un moment où ils ont fait parler d'eux, où ils ont fait parler de leur projet. Donc il y a quand même du bénéfique à en tirer. Et voilà, c'est vraiment, j'essaye de leur insuffler un petit peu le rebond pour se dire, alors oui, c'est peut-être quelque part un échec, mais il y a quand même du positif à en tirer, et puis il y a toujours des conclusions concrètes à en tirer pour la suite, et puis à transformer.
Oui, et puis potentiellement, ils vont réussir à se financer d'une autre manière, et puis ils seront super
Exactement.
contents de te faire savoir.
Tout à fait, ouais.
Est-ce que tu as une anecdote gratinée à nous partager parmi tous les projets que tu as accompagnés?
Eh ben, écoute, beaucoup d'anecdotes un peu gratinées qui nous arrivent chez Mimosa ont lieu au moment du Salon de l'agriculture, dont je te parlais un petit peu tout à l'heure. C'est un peu un moment phare de notre année parce qu'on y est présent tous les ans. Ces 10 jours où on rencontre des porteurs de projets tout le temps. Et je pense que tu l'imagines, c'est aussi 10 jours avec une sacrée ambiance et puis des sacrées soirées aussi. Donc je me rappelle d'une année où on avait rencontré un soir, pendant une soirée, un potentiel porteur de projet. C'était un éleveur bovin, je crois. Donc on avait passé la soirée avec lui, à prendre l'apéro, à danser, à lui parler de Mimosa, à essayer de le convaincre de porter une collecte avec nous, à essayer de lui expliquer tout ce qu'il pourrait faire en passant par nous. La soirée se termine super tard, à 4 h du matin. On devait être de retour le lendemain à 8 h sur le stand. Et à 8 h 30, je vois arriver le porteur de projet en question qui nous ramène des flûtes, bouteilles de champagne pour venir trinquer avec nous dès 9 h du mat. Donc on était persuadés qu'on l'avait convaincu qu'il allait vouloir faire quelque chose avec nous. Et en fait, écoute, pas du tout. Il n'est jamais venu sur Mimosa, mais il revenait juste pour le plaisir de nous faire trinquer dès 9 h du matin. Donc c'était assez intense.
Il n'y a qu'au salon de l'agriculture qu'on voit ce genre de personnage.
Complètement.
Et à l'inverse, est-ce que tu te souviens d'une situation aussi peut-être compliquée que tu as vécue dans ton métier et quelles leçons est-ce que tu en tires?
Alors, j'ai la chance de ne pas avoir eu vraiment de grosses difficultés, pas eu une expérience principale, mais au global, je pense que le plus difficile, c'est que en travaillant sur le secteur de l'agriculture, on fait parfois face à beaucoup de détresse, dans certains cas, à des situations qui sont souvent très compliquées, voire quasi désespérées. Donc, il faut réussir à délimiter un petit peu son rôle. Il faut réussir à savoir jusqu'où va mon accompagnement, à vraiment définir ce que moi je vais pouvoir apporter à cette personne dans la mesure de mes compétences. Et il faut réussir à pas trop justement, comme on en parlait tout à l'heure, s'impliquer en perso et à pas non plus trop faire rentrer de trop de compassion dans ce genre de relation. Donc la leçon, c'est un petit peu ça, c'est réussir à bien déterminer jusqu'où je peux aller et jusqu'où ma mission chez Mimosa, elle me permet d'accompagner les gens et de pas m'attendre à pouvoir tout résoudre et aider tout le monde non plus.
Ouais, hyper fort comme conseil pour le coup, parce que c'est vrai que on a tendance à être passionné par le secteur d'activité dans lequel on évolue, là typiquement Mimosa, où tu rencontres des super personnes, des super projets, et ça te donne envie toi aussi de t'impliquer niveau perso, mais effectivement il faut garder cette limite business et limite se couvrir en fait avec ton poste quoi.
Complètement.
Comment va, selon toi, évoluer le métier d'account manager dans les prochaines années?
Alors, je pense que le métier d'account manager, moi, je le trouve super important au sein d'une entreprise. Donc, je pense qu'il va il est amené à le rester, à rester primordial et même, pourquoi pas, à prendre de plus en plus de place. Dans le sens où je pense que les account managers vont de plus en plus devenir des sortes de vitrines, des sortes de porte-parole aussi d'entreprise, et leur rôle va aussi au-delà de transformer, d'accompagner, de faire de la gestion de compte, va vraiment être aussi de transmettre les valeurs de l'entreprise et d'en être un petit peu les garants quelque part. Je pense voir tout ça pour l'avenir du métier.
Top. Bon, bah écoute, très, très intéressant. On va voir ce qu'il en est. Bah écoute, je termine avec ma question rituelle qui est: quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton quotidien et pourquoi?
Alors, j'ai choisi une chanson. J'ai choisi une chanson qui s'appelle Make It Rain. C'est Lil Wayne et un autre rappeur qui s'appelle Fat Joe. Et j'ai choisi cette chanson parce que c'est tout ce que je souhaite aux personnes que j'accompagne. C'est de réussir à récolter ce qu'ils souhaitent, à optimiser vraiment au mieux leur succès. Et voilà, chaque collecte qui se termine en beauté, c'est toujours un plaisir pour nous et c'est hyper gratifiant de voir toutes ces belles réalisations. Donc tout ce que je leur souhaite, c'est ça, c'est un maximum d'argent, un maximum de personnes derrière eux et tout plein de succès.
Ah, trop chouette. Et en plus, toi, comme tu gardes le lien, j'imagine aussi niveau perso, ils doivent t'envoyer plein de super produits.
C'est vrai qu'on a la chance de se faire régaler de temps en temps et d'avoir des chouettes produits au bureau, c'est sûr.
Ah, trop bien. Et c'est quoi alors la tendance depuis 2 ans que tu vois? C'est des projets qui tournent autour de quelle thématique principalement?
Eh bien, je t'en ai déjà pas mal parlé pendant l'échange. Les épiceries vrac, à fond. On accompagne vraiment beaucoup d'ouvertures. C'est des projets qui marchent super bien, qui plaisent pas mal. Donc, je pense qu'on a un petit peu ces notions, tu vois, de limitation des déchets. Donc, ça, c'est une valeur assez forte. Donc, je dirais ça. Et tout ce qui va être relié au circuit court, diminuer les intermédiaires entre les producteurs, les agriculteurs et le consommateur.
Ok, bah merci beaucoup pour ce tour d'horizon en tout cas, Lauriane, c'est hyper hyper riche et très contente d'avoir pu partager un petit peu de ton quotidien à travers cet épisode. Donc à très vite et je pense que je vais aller spotter les prochains projets sur Mimosa.
N'hésite pas. À très vite et puis merci beaucoup encore pour cet échange.
Salut.
Salut. I'm in this terror, got a head full of stacks, better grab an umbrella, I make it right, I make it right, I'm in